Vous écoutez, on lit pour vous.
Dans le Devoir du 11 mai 2026, ce journal propose de ralentir en réfléchissant à un sujet qui colore l'air du temps. Aujourd'hui, on se demande ce qui reste de la pensée dans un monde saturé par les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et le divertissement. Sous le titre « De la suite dans les idées, penser dans un monde numérique ». Deux textes sont proposés. Le premier, « Comment penser à l'ère de l'antipensée ?» un texte signé par Thierry Morissette, qui est étudiant au baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal. S'il y a bien une chose qui semble proliférer en notre ère, ce sont les moyens d'échapper à la pensée. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, du divertissement audiovisuel de toutes sortes, partout, de jour en jour, les possibilités de se dédouaner de toute activité cognitive d'intérêt se multiplient et se perfectionnent. C'est ainsi qu'en quelques clics seulement, on nous offre un flux infiniment indéfini de contenus et de fonctions, taillés sur mesure pour épouser les formes de notre psyché, qui nous appelle à lui par des promesses d'une léthargie des plus réconfortantes et abêtissantes. Voilà donc ce luxe de la pensée, cette activité si prenante que l'humanité était parvenue à arracher à l'état de la nature, à la sueur de son front, semble avoir été lancée sur la voie de la disparition. En tous les recoins de nos existences, on semble être entêté, à ses dépens, à optimiser et à accélérer, à se dégager du temps qui ne nous sert finalement qu'à nous divertir très littéralement de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et le plus triste dans tout cela est peut-être que plus que jamais nous aurions les moyens de nous libérer de nos tâches les plus abrutissantes, tout en nous assurant des conditions de vie matérielles inégalées dans l'histoire pour nous prêter à des activités intellectuelles, par la science comme par l'art, qui nous procurerait réellement de la joie, du défi, du tumulte émotif et cognitif, bref, de la vie. Les Grecs, pour cela, avaient dû se résoudre aux atrocités de l'esclavage. Et nous, pourtant capables de faire autrement, avons construit un monde où même les esclavagistes sont asservis. Si l'évidence nous pousse donc à désespérément croire que la pensée est à la veille d'engendrer sa propre perte, il est tout aussi désolant de s'apercevoir qu'elle semble incapable de faire naître les remèdes qui sauraient la sauver. Dans cette quête qui nous mène à chercher comment nous pourrions continuer de penser à l'ère de l'antipensée, on peine à dépasser la prémisse même de sa possibilité. Rappelons-le d'abord. Un parfait abandon des mécanismes de l'antipensée, dans ce monde comme dans le prochain, nous vouerait très certainement à un ostracisme qui ne serait rien de moins que radical. Ils se faufilent ou se faufileront très bientôt dans les structures mêmes de nos vies sociales, culturelles et professionnelles, et ce, de façon à s'arroger, il faut le dire, un caractère inéluctable. Et si l'on voulait donc en venir, par la pratique, l'habitude et l'exercice, à développer un usage responsable, modéré et sain de l'antipensée au sein de ces trames qui nous les imposent, la chose paraît simplement invraisemblable. La solution habituelle de la cesse, dans sa forme intramondaine, qui, croyait-on, devait permettre de se modeler une vie dans une société des plus perverses et loufoques, pâlit devant un tel défi, échoue à nous proposer une forme d'exercice sur soi qui permettrait viablement de pallier l'antipensée. Croyez-moi, je m'y suis moi-même, assez naïvement, je dois le dire, essayé. Je pensais, très franchement, avoir trouvé un équilibre famille, travail, amis, loisirs, brain root, assez fonctionnel, et ce jusqu'à ce que je me surprenne, il n'y a pas très longtemps de cela, à très littéralement baver sur mon téléphone dont je refusais de me séparer pendant ma séance matinale de brossage de dents. Que voulez-vous? Il est difficile, sans grande surprise, d'avoir un contrôle de soi suffisant pour faire un usage responsable des technologies développées pour être les plus totalisantes possibles par certains des meilleurs psychologues au monde, armés, notons-le, des fonds sans fin de la Silicon Valley. C'est comme, pour citer un produit de la machine elle-même, faire affronter une bombe à hydrogène et un nouveau-né tout sautant. Et franchement, pour le coup, je ne crois pas être le seul à m'y achoper. Que celui qui ne perd pas plus de 15 minutes par jour sur Instagram jette la première pierre. Si, comme le pensait Aristote, la vertu s'établit dans une capacité à viser un milieu raisonnable entre l'excès et le manque, le souci avec les mécanismes de l'antipensée semble justement être que l'excès en est la seule issue. S'en servir, ne serait-ce qu'un minimum, constitue en soi un excès, et de toute façon, il semblerait que l'on finisse toujours par s'en servir trop. Voilà qu'à moins, peut-être, de tous accepter comme corollaire un Diogène anarcho-primitiviste pour nous rappeler de façon constante, par un spectacle d'une subversion des plus explicites, de penser. Il semblerait que tout travail sur soi, du moins dans une forme qui nous garde une place en société, soit ici impuissant. Damné, voilà ce que nous sommes, et le temps venu, la dernière option qu'il nous restera peut-être pour conserver cette pensée qui fait la spécificité de notre espèce, aussi irréelle semblera-t-elle, sera de se retirer de ce monde, encore ou du moins en esprit, sans quoi, si notre mondanité se révèle être fatidique, nous ne pourrons que profiter de ces dernières lueurs en espérant qu'au crépuscule succédera l'aube. Fin de ce texte titré « Comment penser à l'ère de l'antipensée » signé Thierry Morissette et publié dans Le Devoir du 11 mai 2026 dans le grand dossier titré « De la suite dans les idées pensées dans un monde numérique ».
Les 20 ans de BANQ. Un texte de Catherine Lalonde paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. Bibliothèque et Archives nationales du Québec à 20 ans en 2026. Le Devoir fait le point sur les moyens et les ambitions de la société d'État qui semble s'étioler depuis des années, alors même qu'un ambitieux projet de numérisation des bibliothèques publiques se met en branle. L'érosion silencieuse de la mission de BANQ mise en lumière dans un bilan critique. Fin avril 2005, la grande bibliothèque ouvrait pour la première fois ses portes au public. Un an plus tard, en 2006, elle fusionnait avec la Bibliothèque nationale et les Archives nationales. Pour ce 20e anniversaire, les presses de l'Université de Montréal publient BANQ, Vision pour une institution phare, un ouvrage collectif en forme de bilan critique signé par des inconditionnels amoureux de la mission de BANQ et ici, qui aime bien critique, bien. Il n'existe à peu près pas d'exemple dans le monde d'un autre endroit qui soit à la fois la Bibliothèque nationale d'un pays, à la fois ses archives nationales et à la fois une grande bibliothèque publique qui dessert tout le territoire, rappelait Lise Bissonnette, première présidente directrice générale de BANQ, lors du lancement en mars 2026 de ce livre. Cette fusion a créé un corps constitué qui a surpris à l'international où on pensait que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'on retrouve à la fois des chercheurs et des enfants dans cette bibliothèque, continuait-elle. Auprès des articles de Madame Bissonnette, d'autres signés par les historiens Gilles Galichan et Jean-François Palomino, par la doyenne des bibliothèques de l'Université McGill, Guylaine Baudry, et les professeurs à l'École de bibliothéconomie de l'Université de Montréal, Carole Couture, Archives, et Marie D. Martel, Bibliothèque. Ensemble et par article, ils rappellent l'histoire de la constitution de BANQ et analysent ses résultats. Le constat? BANQ n'a plus les moyens de ses missions, nombreuses et à la fois essentielles et ambitieuses. Et ses missions s'étiolent à force de négociations avec des budgets intenables. Carole Couture consacre un chapitre à observer les mouvements du financement étatique de BANQ, chiffres à l'appui. Conclusion, BANQ est dans une longue période de définancement qui ne semble pas près de se terminer. On assiste à des réductions de services, heures d'ouverture, personnel, exposition, au report de projets structurants, ainsi qu'à une fragilisation progressive des fonctions importantes du rayonnement de BANQ, écrit-il. Les effets de cette érosion silencieuse des missions par les coupes budgétaires, comme la nomme à son tour Guylaine Bautry, sont détaillés par les auteurs pour tous les aspects de BANQ par un épluchage des rapports annuels. Ainsi posés côte à côte, ils inquiètent effectivement. Disparition des expositions, réduction des heures de visite, absence d'archivage des réseaux sociaux, réduction des acquisitions, des prêts de documents physiques et des visites, report du projet d'augmentation des espaces d'entreposage des archives, entre autres. Selon Gilles Galichan et Jean-François Palomino, en rassemblant, en conservant et en diffusant les livres et les documents d'archives, les bibliothèques et les archives nationales incarnent la mémoire du temps. Le poète Gaston Miron disait que la société québécoise souffre souvent d'Alzheimer et le manque d'intérêt de l'État pour sa bibliothèque et ses archives nationales en est un éloquent symptôme. Trop de politiciens considèrent la culture comme un luxe et la bibliothèque comme un divertissement. Qu'en dire, c'est faire. Marie Desmartel, de son côté, signe le chapitre « Entre réalité et discours, une décennie de transformation » 2014-2024. Elle y compare les orientations portées par les différents directeurs avec les données tirées de StatBib, les statistiques des bibliothèques publiques du Québec, et des rapports annuels. Une manière de croiser données et récits. Les chiffres, ainsi, permettent de suivre sur 10 ans les reculs du présentiel, progression du numérique, cycle d'érosion et de relance des ressources, recomposition de la médiation et du rayonnement, écrit-elle. Et les discours des directeurs rappellent, eux, la manière dont BANQ s'est raconté. Virage citoyen et tiers-lieu, Christiane Barbe, tiers-lieu inclusif, Geneviève Pichet, triptyque patrimoine numérique communautaire, Jean-Louis Roy, société apprenante, Marie Grégoire. Autant de visions qui créent un horizon d'attente, explique-t-elle, en visio-entrevue. Ce qui peut être très bien. Ce qui me dérange, c'est lorsqu'on a des idées fortes qu'on ne concrétise pas et qu'on continue à les porter alors que les données ne suivent pas les ambitions proclamées. Quand les bottines ne suivent pas les babines, autrement dit. Ce qui se cache dans les écarts. Madame Martel se questionne ainsi sur l'ajout d'un volet éducation apporté par Jean-Louis Roy et repris par Marie Grégoire et sa société apprenante. ce n'est pas une mauvaise idée de mettre éducation et littératie au cœur des missions, mais ça alourdit un mandat déjà très lourd alors que les ressources et budgets ne suivent pas, donne-t-elle en exemple. Sur une décennie, l'observation de ces écarts riches en enseignement révèle une montée fulgurante du numérique, une fréquentation sur place en retrait, des acquisitions en baisse, des expositions retirées, une médiation éclatée et un suivi lacunaire des publics prioritaires et des effectifs en ressources humaines quasi constants. Pour refonder BANQ, trois chantiers sont nécessaires, selon elle. D'abord, y mesurer ce qui compte avec des données continues, puis réinvestir la présence et la médiation de proximité, enfin assurer des ressources suffisantes. Finalement, ajoute-t-elle, réaffirmer BANQ comme bibliothèque de recherche nationale. Big is beautiful. Lors du lancement du livre, certains de ses auteurs parlaient de l'espèce d'indifférence des gouvernements des dernières années face à la BANQ, ou d'incompréhension, peut-être, de tout ce à quoi elle peut toucher. Est-ce à cause de son amplitude? On ne peut, rappelle Lise Bissonnette dans les dernières pages de l'ouvrage, la considérer comme un organisme culturel subventionné parmi d'autres. Car elle est aussi l'institution culturelle la plus fréquentée et d'immensément loin parmi toutes au Québec, avec des établissements dans toutes les régions, des collections patrimoniales qui dépassent celles des musées et un réseau numérique qui sert les citoyens, mais aussi des usagers de tout pays. Et qui demeure, comprend-on, sous-exploitée par rapport à tout ce qu'elle peut apporter. C'était les 20 ans de BANQ, un texte de Catherine Lalonde paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.
Les oiseaux savent faire face au froid de canard. Un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2026 dans La Presse. Les oiseaux ont plusieurs stratégies pour résister au froid. Migration vers des régions légèrement moins froides, changements métaboliques, abris, réserves de nourriture, rassemblement en groupe et, plus rarement, hibernation. Plusieurs chercheurs se penchent d'ailleurs sur la question pour savoir comment les différentes espèces réagiront au changement climatique. D'abord, l'expression « avoir la chair de poule » n'est pas qu'une métaphore. Beaucoup d'espèces d'oiseaux frissonnent avec leurs muscles pectoraux quand il fait froid, dit Connor Taff de l'Université Cornell, qui vient de publier une étude sur le froid et les hirondelles. Ce frissonnement génère de la chaleur. M. Taff, qui a publié son étude dans la revue Current Biology, étudie depuis 10 ans un site où plusieurs nids sont sous surveillance constante près d'Ithaca, dans l'État de New York. On veut comprendre ce qui influence le succès reproductif des hirondelles bicolores, dit le biologiste de Cornell. Je m'intéresse plus particulièrement aux vagues de froid durant la période de reproduction, au printemps. Le site expérimental où chaque nid est surveillé par des caméras et où de faux œufs donnent des informations sur la température et le couvage existe depuis 40 ans. Les hirondelles bicolores passent l'hiver dans les tropiques. Il y a aussi des espèces qui ne font pas de grandes migrations, mais qui se déplacent légèrement, dit M. Taff. Par exemple, le canard noir et l'arlequin plongeur passent l'hiver près des côtes des Maritimes, où il y a de moins grands froids. Les oiseaux vont aussi se protéger du vent d'hiver, qui augmente les pertes de chaleur, soit en se perchant dans les arbres, soit en se regroupant pour profiter de la chaleur de leurs semblables. C'est le cas de la mésange à tête noire. Les changements métaboliques les plus connus sont ceux des manchots, qui génèrent plus de chaleur interne l'hiver avec un métabolisme accéléré. Si on expose les manchots aux froids hivernaux durant l'été, ils ne peuvent pas les soutenir. Ils ont un changement métabolique saisonnier, rappelle Connor Taff. De rares espèces, dont les colibris, hibernent chaque jour pendant les moments les plus froids, ce qui leur permet d'avoir une température interne plus basse. Une autre tactique assez rare est celle de la gélinotte huppée, qui s'enfouit dans la neige dans les moments les plus froids pour garder sa chaleur, comme dans un igloo. Et pour la nourriture? La plupart des oiseaux qui vivent dans des hivers froids vont trouver des graines, dit M. Taff. Quelques espèces, dont les mésanges, cachent des réserves de graines dans des endroits, comme les écureuils. Il y a aussi des charognards qui se nourrissent des carcasses d'animaux morts. Oisillons. Les deux chercheurs contactés par la presse parce qu'ils étudient les réactions des oiseaux au froid le font pour comprendre comment ils protègent leurs bébés. Avec la hausse de la variabilité de température due au changement climatique, il y a beaucoup d'intérêt pour la question, dit M. Taff. Jusqu'à l'âge de 10 jours, les oisillons ne peuvent pas se garder au chaud. Ils consacrent toute leur énergie à développer leurs organes internes, et ils n'ont pas beaucoup de plumes. Quand il y a une vague de froid, il y a moins d'insectes, ce qui signifie que les hirondelles doivent s'éloigner du nid plus longtemps pour se nourrir. Si les hirondelles s'éloignent trop longtemps, les oisillons peuvent mourir de froid, dit M. Taff. Il semble que certaines hirondelles amassent plus de réserves énergétiques, ce qui leur permet de rester dans le nid plutôt que de sortir chercher à manger quand il fait froid. Les biologistes de Cornell veulent maintenant comprendre si des caractéristiques génétiques expliquent cette capacité de stockage et ce comportement, et si ce type de gène devient plus fréquent dans les régions où les variations de température sont exacerbées par les changements climatiques. Une autre biologiste, Davy Satakar, de l'Université d'Oxford, s'est penché sur l'impact du printemps hâtif sur la mortalité attribuable aux vagues de froid chez la mésange charbonnière. Les mésanges charbonnières ont leurs oisillons plus tôt parce que le printemps est plus précoce, mais cela signifie qu'ils sont plus exposés à des vagues de froid, dit Mme Satakar, qui a publié son étude l'hiver dernier dans la revue Global Change Biology. Les printemps sont plus précoces avec les changements climatiques, mais il y a davantage de vagues de froid printanières. Cela pourrait signifier que certaines espèces d'oiseaux pourraient moins bien survivre aux changements climatiques. Il se pourrait aussi que les oisillons qui acquièrent plus rapidement la capacité de résister au froid soient favorisés et que cela provoque un changement dans la génétique des populations. Les mésanges charbonnières font leur nid dans des orifices dans les arbres et les murs. En savoir plus, 60 km. Déplacement vers le nord de la latitude hivernale moyenne des oiseaux migratoires nord-américains entre 1966 et 2013. Source: Environmental Protection Agency. C'était Les oiseaux savent faire face au froid de canard, un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mai 2026 dans la presse.
Tension entre Rome et l'Allemagne sur les bénédictions de couples homosexuels. Un texte d'Étienne Leduc paru le 28 avril 2026 dans le magazine Fugue. Le Vatican a réitéré son opposition aux bénédictions formalisées de couples de même sexe dans un contexte de tension croissante avec certaines églises locales, particulièrement en Allemagne, où des initiatives pastorales plus inclusives prennent de l'ampleur. S'exprimant le 23 avril lors d'un point de presse à bord de l'avion papal, le pape Léon XIV a rappelé la position officielle du Saint-Siège. « Nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction formalisée des couples homosexuels ou des couples en situation irrégulière. » Sans nommer directement ses interlocuteurs, cette déclaration vise clairement les débats en cours au sein de l'Église allemande. En Allemagne, plusieurs évêques, dont le cardinal Reinhard Marx, ont ouvert la porte à des bénédictions pastorales pour les couples de même sexe. Ces pratiques, qui ne relèvent pas du sacrement du mariage, s'inscrivent dans la dynamique du chemin synodal, un vaste processus de réflexion et de réforme amorcé par l'Église catholique allemande. Ce dialogue interne aborde des enjeux sensibles, gouvernance de l'Église, place des femmes, mais aussi reconnaissance des personnes LGBTQIA+. Pour plusieurs acteurs, ces discussions traduisent une volonté d'adapter les pratiques pastorales aux réalités contemporaines. La position du pape s'inscrit néanmoins dans la continuité de la doctrine catholique qui réserve le mariage religieux à l'union entre un homme et une femme. Elle maintient une distinction nette entre l'accueil des personnes, présenté comme inconditionnel, et la reconnaissance des unions, exclues pour les couples de même sexe. Dans le même souffle, le pape a tenu à préciser que la bénédiction est pour tous, en référence aux bénédictions générales offertes aux fidèles lors des célébrations. Une nuance qui vise à affirmer que les personnes homosexuelles ne sont pas exclues de la vie de l'Église sans pour autant reconnaître leur relation. Cette prise de position met en lumière une fracture persistante entre Rome et certaines églises locales. Tandis que des diocèses, notamment en Allemagne, expérimentent des formes d'ouverture pastorale, le Vatican réaffirme une ligne doctrinale stricte. Ce décalage nourrit un débat de fond sur l'évolution de l'Église catholique face aux transformations sociales et sur la place réelle accordée aux personnes LGBTQIA+, en son sein. Pour plusieurs groupes de défense des droits LGBTQIA+, cette distinction continue de poser problème. Ils y voient le maintien d'une inégalité structurelle entre les couples hétérosexuels et homosexuels malgré les discours d'inclusion. C'était « Tension entre Rome et l'Allemagne sur les bénédictions de couples homosexuels », un texte d'Étienne Duc paru le 28 avril 2026 dans le magazine Fugue.